15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il sera à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin urgentiste et en fait, quand vous n'êtes pas sur ce plateau, vous êtes au domicile des patients, en tout cas chez nous. Ici, du lundi au vendredi, c'est la santé des auditeurs d'Europe 1 que vous allez, que nous allons chouchouter. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré au repas qu'on qualifie souvent de plus important de la journée, le petit déjeuner. Est-il vraiment indispensable pour les adultes, pour les enfants? Si oui, que faut-il mettre sur la table? C'est ce que nous dira notre invité, le nutritionniste Raphaël Grumman. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va faire un point sur la migraine chez l'enfant, un problème plus fréquent qu'on l'imagine et qu'il faut prendre très au sérieux. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des ongles incarnés. À partir de quand faut-il consulter? Quel spécialiste consulter d'ailleurs? On vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Avec Catherine Blanc, notre sexologue, on va parler de la première fois. Le premier rapport sexuel, qu'il soit raté ou pas, on verra s'il est déterminant pour le reste de la sexualité. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Vincent, 32 ans de Meudon, qui vit donc en région parisienne. On l'écoute.
Bonjour, alors merci pour votre émission, que je la trouve très intéressante. J'ai une question, parce que récemment j'ai dû prendre des antibiotiques et on m'a recommandé de ne pas boire. Mais ma question est... qu'est-ce que c'est de pas boire? Est-ce que c'est un petit peu? Est-ce que c'est zéro alcool? Un verre? Deux verres? Du coup, je suis perdu. Merci beaucoup.
Bon, d'abord, Jimmy, on rappelle évidemment que l'alcool, on peut en consommer, mais toujours avec modération. Deux verres maximum par jour et pas tous les jours. Alors là, docteur Jimmy Mohamed, on parle de consommer de l'alcool quand on est sous antibiotique. Bon, alors déjà, quand on est sous antibiotique, c'est a priori qu'on est un petit peu malade, mais admettons qu'on ait envie d'un verre, est-ce qu'on peut?
Alors, en réalité, ça dépend du type d'antibiotique, mais je suis obligé, moi, en tant que médecin, de vous inciter à ne pas en prendre. Et souvent, je dis aux patients, boire ou guérir, il faut choisir.
Ah, pas mal. Nouveau slogan trouvé par Jimmy Mohamed. C'est parfait.
Non, mais c'est vrai. Non, mais honnêtement, vous êtes malade. Quelle idée de vouloir boire à ce moment-là? Temporiser, on verra par la suite.
Les antibiotiques, ça ne dure pas non plus
10 ans.
Oui, en
général, c'est entre 5 et 7, 10 jours maximum, donc on peut s'en remettre.
Donc, parce que quand on entend justement que si on boit en prenant des antibiotiques, ben, on a entendu que on entend parfois que ça va annuler l'effet des médicaments ou même aggraver les effets secondaires qu'il peut provoquer. C'est vrai, ça fait ça les antibiotiques et l'alcool?
Alors non, c'est pour les antibiotiques, ce n'est pas vrai. Pour certains médicaments, oui, mais les antibiotiques, non. Le risque, c'est que pour dégrader l'alcool, le corps a besoin d'une enzyme. Et cette enzyme, elle va être monopolisée par l'antibiotique qu'on va prendre, ce qui veut donc dire que l'alcool va stagner dans le sang et on risque d'être en état d'ébriété et de se sentir mal beaucoup plus longtemps. Donc ce n'est pas un problème d'absorption ou d'inefficacité du médicament, c'est juste qu'on risque tout simplement d'être ivre plus longtemps et être encore en moins bonne santé.
Ça donne pas très envie, effectivement. Alors, vous parliez de certains antibiotiques avec lesquels, justement, il faut pas boire du tout. Enfin, alors, peut-être c'est compliqué, les noms des antibiotiques, mais avec lesquels, vraiment, non, no way, il n'y a pas d'alcool.
Alors, il y a une famille d'antibiotiques, mais qu'on utilise plutôt à l'hôpital, la famille des céphalosporines. Mais en pratique, en ville, notamment lorsque vous avez une infection dentaire, il y a la famille des métronidazoles, c'est notamment le Flagyl, qu'il ne faut surtout pas associer aux antibiotiques, car il y a un risque qu'on appelle d'effet entabuse, donc un effet secondaire assez sévère avec baisse de la tension artérielle, palpitations, maux de tête, malaise, vomissement. Donc bref, avec cet antibiotique, c'est zéro alcool systématique.
Bon, avec tous les antibiotiques, on va dire zéro alcool systématique. Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, on écoute Lucie, une gourmande de 25 ans qui s'interroge sur le chocolat, vous allez l'entendre. Elle nous a posé sa question au 3921.
Oui, bonjour. Alors moi, je vous appelle pour savoir, j'ai entendu dire que le chocolat pouvait être un antidépresseur. Alors je voulais savoir si c'était lié à une hormone particulière ou si c'était juste par rapport au plaisir qu'on avait à le manger. Voilà, bah, merci beaucoup pour vos réponses. Au revoir.
Alors, le chocolat, c'est un antidépresseur naturel. Je crois, Jimmy, que vous allez la décevoir, non? Là, c'est pas tout à fait ça.
Ouais, c'est plutôt faux, même si une étude récente portant sur 13 000 patients a montré que les patients qui consultent pour dépression et qui ont mangé du chocolat bah, sont un peu moins déprimés et ont 70% de risque d'être un peu moins déprimés lorsqu'ils
donc
mangent du chocolat noir.
On parle de déprime et pas de dépression, c'est
exactement,
pas pareil.
C'est pas tout
même,
à fait pareil. Ouais. C'est pas un antidépresseur.
Ça va
en
pas
revanche,
remplacer.
Non, absolument pas. En revanche, on sait que le chocolat contient des substances psychoactives qui ont un effet euphorisant proche de celle des cannabinoïdes que contient le cannabis. Donc il peut avoir une expérience
détendre un peu.
Détendre, et notamment lorsqu'on est déprimé, on mange un peu plus de chocolat, mais c'est plus compulsif et c'est l'expérience de dégustation qui est même plus importante que le chocolat en tant que tel. Donc le chocolat pour être un peu détendu, pourquoi pas, mais non comme antidépresseur.
Et le chocolat par contre, bon alors c'est pas un antidépresseur naturel, ça remplace pas les médicaments, par contre c'est bon pour d'autres choses. Hein. Le chocolat, on va quand même rassurer les gourmands qui nous écoutent, c'est notamment bon pour le cœur je crois.
Exactement, parce que ça contient, lorsqu'il est noir essentiellement, ce qu'on appelle des flavonoïdes.
Ah le chocolat blanc, moi je préfère, c'est pas pareil.
Bah,
c'est
pauvre, il y en a peu, il faut qu'il soit très riche en cacao et plutôt du chocolat noir. Et ces flavonoïdes permettent un effet antioxydant et protège le cœur, donc limite les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension. Donc oui, le chocolat a des vertus bénéfiques et positives, mais à consommer avec modération.
Ah, mais vous dites c'est bon pour le cœur. Moi, je me dis qu'on peut du coup en consommer à volonté, peut-être, non ?
Non, il faut faire quand même attention. Alors déjà, on bannit le chocolat qu'on trouve dans le rayon confiserie. Alors ceux-là sont vraiment très mauvais, ils sont trop sucrés et ont un effet plutôt délétère. Évitez le chocolat blanc, comme on a dit, donc plutôt le chocolat noir riche en cacao. Et n'oubliez pas qu'une tablette de chocolat, c'est globalement 500 à 600 kilocalories. Donc on en prend 2 carrés par jour, ça suffit largement.
La tablette entière dans la soirée quand on regarde un petit film, non, ça on évite.
Non, devant
c'est pas...
Netflix, c'est pas terrible.
Mais ça m'enlève la déprime. Alors non,
ça enlève la déprime, mais ça remet quelques kilos en trop. Et puis finalement, c'est trop sucré. Et puis ça reste un peu gras. Donc évitez ça.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Lucie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas. Nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des migraines chez les enfants. On a l'impression que c'est rare et pourtant, ça touche presque 5 à 10% des enfants. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le nutritionniste Raphaël Grumman. Avec lui, on va tout vous dire sur le petit déjeuner. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes le nutritionniste Raphaël Grumman avec qui on va parler du petit déjeuner. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, aujourd'hui vous avez décidé de nous parler des migraines, mais des migraines chez les enfants. Alors d'abord, moi j'étais persuadée que c'était un truc d'adulte en fait, la migraine. Il y a vraiment des petits, les pauvres, qui ont ça, que ça concerne la migraine.
Et oui, c'est la première cause de maux de tête récurrents de l'enfant. C'est 5 à 10% des enfants et 15% des adolescents. Et ça reste sous-diagnostiqué par les parents, mais aussi par les médecins.
Et ça concerne tant que ça. Et ces enfants migraineux, ils sont migraineux pourquoi ? Parce qu'ils ont des parents déjà qui sont migraineux. Papa et maman ont des migraines, enfin, ou l'un des deux. Et du coup, souvent, les enfants, c'est un peu génétique. Alors,
il y a
en
un
fait.
Terrain familial très fort, comme dans l'asthme, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant migraineux restera migraineux dans 60% des cas. Donc, si on est migraineux dans l'enfant, on sera migraineux à l'âge adulte. Et pire encore, 30% des parents d'enfants migraineux sont des migraineux qui s'ignorent.
Ah, les parents, ils ne savent même pas qu'ils sont migraineux, ils le sont en fait.
Ils le sont, ou ils l'ont été. Et bien souvent, ils ne le savent pas.
Comment on peut être migraineux sans le savoir ?
Et ben, en fait, on n'associe pas forcément les maux de tête qu'on a à des migraines. On se dit j'ai mal à la tête parce que je suis fatigué, j'ai mal à la tête de façon récurrente, mais ce n'est pas très grave. Or, c'est de la migraine.
D'accord. Et comment on la reconnaît, la migraine, chez l'enfant ? Surtout chez un enfant, par exemple, qui ne parle pas. Alors, comment on sait qu'il a mal quoi, à la tête ?
La migraine est rare avant 4 ans. Donc, en général,
donc, chez, les bébés, quand même,
chez les bébés, ça reste exceptionnel.
Ça dit, il n'y en a aucun qui l'a raconté. Donc
et on
n'a
pas de preuve pour savoir
ça.
Exactement. Mais une fois que l'enfant verbalise, alors ça commence par des maux de tête qui sont très intenses.
Donc, j'ai mal à la tête, maman,
des
papa.
Des deux côtés. Ouais. Et souvent, les symptômes digestifs sont au premier plan.
Ah bon ?
Vomissement, douleur abdominale. Et on pourrait croire que c'est une gastro-entérite. Or, c'est une migraine. L'enfant est souvent livide, pâle, les yeux cernés, on se dit « oh là là, il se passe quelque chose de pas bien ». Et surtout, point très important, ça empêche toute activité de l'enfant. Il se met à pleurer, et puis il se met sur le côté,
il
peut plus rien faire. C'est pas l'enfant qu'on peut voir migraineux et puis qui va sur sa tablette. Non, c'est pas de la migraine. La vraie migraine empêche toute activité, elle fait vomir et elle est très intense.
Qu'est-ce qui la déclenche, cette migraine pédiatrique, justement ?
Alors, il y a des facteurs déclenchants, un peu comme chez l'adulte, quelque chose de récurrent, de façon plutôt simple et fréquent. C'est un, le bruit, notamment en fin de journée, dans les classes très bruyantes. La fatigue, l'enfant qui dort pas suffisamment, le stress, le surmenage, tout ça sont des facteurs classiques. Après, certaines odeurs peuvent déclencher ça. Parfois, certains aliments, mais c'est discuté. Mais globalement, c'est plutôt l'environnement et les règles d'hygiène de vie.
Alors, comment on la soigne quand même, cette migraine de l'enfant? J'espère qu'il y a des solutions pour ces pauvres enfants qui ont mal à la tête.
Oui, la première, c'est de croire l'enfant. L'enfant qui a mal à la tête, on ne se moque pas de lui, on ne dit pas « ça va passer ». On dit « je comprends ta douleur, je te crois ». Et la première des choses, c'est le mettre dans un environnement calme, au repos, dans le noir, loin des écrans et des tablettes, et de le laisser se reposer. Premier traitement. Ensuite, si on décide de lui donner un médicament, ce qui est plutôt efficace, c'est les anti-inflammatoires, qui est plus efficace que le paracétamol. Et puis, on le laisse faire une petite sieste. Et en général, au bout de quelques heures, l'enfant se réveille et n'a plus mal.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Donc, tout de suite, on accueille notre invité pour le dossier du jour. C'est plutôt l'heure bientôt du goûter, mais on a décidé de parler du petit déjeuner.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Bonjour Raphaël Grumman.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes nutritionniste à Paris et à Deauville. Alors, on ne va pas commencer cet entretien sans vous demander si le petit déjeuner, c'est réellement, comme on l'entend, le repas le plus important de la journée. Est-ce que c'est vrai ça?
C'est vrai, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut se passer d'un petit déjeuner, mais ça reste quand même une bonne base pour avoir un équilibre alimentaire et équilibrer au mieux tous les repas de la journée. Donc si on a déjà une bonne base le matin, bah, ça va être beaucoup plus facile d'équilibrer le repas du midi et du soir.
Timmy ?
Moi, par exemple, je n'ai pas faim le matin, je ne mange pas. Donc un adulte qui ne veut pas manger le matin, est-ce que pour autant ça laisse des problèmes pour le reste de l'après-midi, faire qu'on va moins bien manger, qu'on va manger n'importe comment, ou finalement on peut nous s'en passer en étant adulte ?
On peut s'en passer en étant adulte, à condition au moins de mieux équilibrer ses repas du midi et du soir. Parce que si on fait déjà l'impasse sur le petit déjeuner, on ne peut pas se permettre de faire l'impasse en plus sur un autre repas principal. Donc le déjeuner doit être au moins très équilibré, ainsi que le dîner. Souvent le problème avec le modèle français, on va zapper un peu le petit déjeuner, le repas du midi va être pris sur le pouce, et du coup il ne reste plus que le repas du soir qui va être beaucoup trop copieux. Et c'est là que ça pose problème parce qu'on va avoir une prise de poids qui va être liée à un dîner trop volumineux par rapport aux autres repas de la journée.
On sait combien de Français ne prennent pas ou à l'inverse prennent un petit déjeuner. Il y a des chiffres là-dessus. Est-ce que le Français, il aime ça, le petit déjeuner ou pas?
Pas tant que ça. Il y a à peu près, il y a presque un tiers de la population qui ne prend pas de petit déjeuner le matin ou en tout cas juste un café, ce qui est évidemment insuffisant.
Ce n'est pas un repas, un café?
Et non, ce n'est pas un repas. Okay. C'est juste une hydratation, ce qui est hyper important. Même quand on ne prend pas de petit déjeuner, il faut penser à boire dès le matin parce qu'on va passer la nuit évidemment sans s'hydrater. Et donc, c'est dès le matin, dès le réveil, qu'il faut au moins consommer une boisson chaude ou tout simplement un verre d'eau.
Et c'est, ça fait quoi la déshydratation le matin? Ça peut être grave? Enfin, ça fait. Qu'est-ce qui nous arrive si on ne se réhydrate pas au réveil là,
quand
comme
on
ça
est déshydraté, le cerveau fonctionne moins bien. Donc, on va avoir des facultés intellectuelles, mémorisation, concentration qui vont être diminuées. Comme on va commencer une journée active, bah, il faut être le plus performant possible et donc au moins s'hydrater dès le réveil.
Jimmy ?
Là, on approche de la rentrée, c'est la semaine prochaine. Les enfants qui ne veulent pas manger le matin, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on doit les forcer?
Alors non, on ne va pas les forcer parce que ce n'est pas le but de leur provoquer un dégoût. On va essayer de trouver des astuces, tout simplement. Déjà essayer de les réveiller un tout petit peu plus tôt, 5 minutes plus tôt, pour qu'ils aient le temps de se réveiller sans être dans le stress. Parce que souvent, ce qui peut couper l'appétit, c'est de se réveiller dans le stress, d'attaquer tout de suite. Allez, vite, 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 faut qu'on parte à l'école. Est-ce que tu as fait ton sac? Voilà. Ça, évidemment, ce n'est pas propice à prendre un petit déjeuner dans de bonnes conditions.
Et là aussi, on sait combien d'enfants ne prennent pas de petit déjeuner en France?
Oui, on constate qu'il y a à peu près 30% des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner ou encore une fois un petit déjeuner insuffisant.
Donc ça, c'est grave.
Ça, c'est embêtant parce que les enfants, eux, ont vraiment besoin d'une base, au moins le matin, d'apport énergétique et souvent au moins une base glucidique, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre au cerveau de bien fonctionner.
Ils ont plus besoin de leur cerveau que nous le matin, c'est ça?
En fait, ils vont avoir des réserves qui vont être moindres que nous et ils vont avoir des besoins de mémorisation et de concentration plus importants que nous.
Merci beaucoup Raphaël Grumman, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, vous allez nous expliquer du coup ce qu'il faut mettre sur la table pour le petit déjeuner, quels aliments éviter aussi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble ce vendredi jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé-Bien-être. À mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed et aujourd'hui le nutritionniste Raphaël Grumman. Alors il y a quelques minutes, Raphaël, on a dit à nos auditeurs que vous alliez nous aider à composer le petit déjeuner idéal. Du coup, on va parler d'abord des adultes, on parlera des enfants après. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement, qu'est-ce que nous conseillez par exemple à Jimmy et moi, là, on a la trentaine, qu'est-ce qu'on doit manger le matin?
Alors déjà, ils vont essayer de prendre une source de glucides le matin, ça pourrait être par exemple du pain. On va essayer de le prendre plutôt complet pour avoir un maximum de céréales, donc de fibres. Et les fibres, ça va permettre de tenir le plus longtemps possible dans la matinée. C'est ça qui va apporter de la satiété. Sur le pain, on peut consommer, soit si on est porté sur le salé, pourquoi pas du jambon, du fromage, des œufs pour ceux qui aiment bien.
Beurre confiture
ou alors tout simplement à la française, plutôt beurre confiture, mais on aura une satiété moins grande qu'avec une source de protéines, parce que les protéines, ça apporte aussi une satiété plus longue dans la matinée.
Alors j'ai l'impression, on se dit souvent qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui préfèrent le petit déjeuner français, puis ceux qui préfèrent surtout, enfin, plutôt celui qui est un peu anglais ou allemand, avec donc des protéines, du jambon, des choses comme ça. Vous préférez celui-là, j'ai l'impression, non ? Vous conseillez plutôt l'anglais, quoi, avec du jambon le matin, des œufs.
L'avantage de ce petit déjeuner-là, le petit déjeuner anglais ou allemand, protéiné donc, apporte plus de satiété, ce qui évite le petit coup de faim en milieu de matinée, le petit grignotage qu'on pourrait avoir au bureau, aller chercher une petite barre chocolatée par exemple sur les coups de 10 heures. Si on prend un petit déjeuner salé, donc protéiné, on n'aura pas besoin de consommer quelque chose en milieu de matinée.
C'est quoi, c'est du pâté ?
Ça peut être du pâté, si vous voulez, ou des rillettes, pourquoi
le matin,
pas quelque chose d'un petit peu riche en protéines. Non, mais ça pourrait exagérer. Mais en fait, on peut se permettre d'avoir quelque chose qui est un petit peu gras le matin aussi, puisqu'on va avoir toute la journée pour éliminer ses apports caloriques. Donc, si on devait privilégier quelque chose de gras...
Si on doit manger des rillettes ou du pâté, c'est le matin.
C'est préférable le matin. Mais on peut tout simplement consommer une tranche de jambon blanc ou des œufs.
Du poulet.
Exactement, pour avoir cette source de protéines. On va essayer de consommer aussi une source de fruits. Donc important pour avoir un maximum de fibres et des vitamines aussi.
Jimmy ?
Et quand vous dites fruits, est-ce qu'un jus de fruits, pas pressé forcément, parce que je dois vous avouer que moi j'ai pas le temps le matin, comme beaucoup de Français, de presser mon jus tranquillement, est-ce qu'un jus de fruits peut faire l'affaire ?
Alors non, maintenant ça ne fait pas l'affaire le jus de fruits. D'ailleurs ça a été classé par le PNNS, qui est le Programme National Nutrition Santé, au même titre que les sodas, c'est-à-dire que les jus de fruits apportent pratiquement...
Mon jus d'orange pressé, il est au même titre que le cola, quoi, par exemple.
Pratiquement.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'en fait, quand vous pressez un jus...
Moi, j'ai l'impression de boire plein de vitamines quand je me fais une petite orange pressée. Alors déjà, elle fait un bien fou.
Pour avoir les vitamines, il faut le consommer tout de suite après l'avoir pressé, parce que vous savez que la vitamine, notamment la vitamine C, elle est très fragile, notamment à l'environnement, à l'air, à la chaleur, etc. Et donc, du coup, si vous pressez votre jus et que vous attendez un petit peu, vous n'avez pas de vitamine. Ou en tout cas, très peu. Si vous le faites, en tout cas, il faut le consommer tout de suite. Mais quand on presse un jus, on va presser, par exemple, 3 oranges pour avoir ne serait-ce qu'un verre. Mais si vous deviez manger 3 oranges, je ne pense pas que vous le feriez le matin.
Non, ça fait beaucoup.
Donc, en fait, vous allez récupérer les sucres des 3 fruits sans récupérer le vrai bénéfice des fruits, qui sont les fibres. Donc, les fibres vont rester dans la pulpe,
principalement. Mais la manger, cette orange, la croquer, la mâcher,
voilà. Et vous aurez plus de satiété. Et au final, vous aurez donc moins de sucre.
Donc, Jimmy, vous oubliez votre jus d'orange pressé le matin. Par contre, pâté rillettes, je reviens dessus parce que ça m'a quand même marqué. On est d'accord. Du coup, là, vous nous conseillez quasiment la pâte à tartiner chocolatée. Enfin, c'est hyper gras. Enfin, moi, je me dis... Vaut mieux mon nuté, machin, enfin mon chocolat à tartiner ou mes rillettes, là, mais oui, je sais pas. Ça paraît hyper. Pour
quand
le cholestérol,
vous,
là,
quand
c'est
vous consommez votre pain avec du beurre et de la confiture, ça revient à consommer une pâte à tartiner au chocolat. Pourquoi ? Parce que le beurre, c'est les acides gras saturés, ce qu'on va avoir dans la pâte à tartiner, et le sucre, vous l'avez aussi dans la pâte à tartiner, au même titre que la confiture. Donc au final, on n'est pas très très loin. Je ne dis pas qu'il faut en consommer tous les jours.
Vous mangez ça le
évidemment,
matin,
ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est surtout la variété au petit déjeuner pour éviter la lassitude. Et ce qui est aussi très intéressant pour les enfants. Parce que quand vous leur proposez toujours le même petit déjeuner, au bout d'un moment, ça devient lassant et ils peuvent décrocher et plus avoir envie de petit déjeuner. Si chaque matin, vous leur réinventez un petit déjeuner un petit peu différent, vous verrez que ça sera déjà beaucoup plus facile.
Docteur Jimmy Mohamed ?
Et le café, moi, je ne supporte pas sans sucre. Est-ce que c'est grave ?
Alors, on va le conseiller plutôt sans sucre, le café. Maintenant, si vous mettez un demi carré de sucre dans votre café...
Un demi, au-delà...
Combien vous en mettez le matin, Jimmy ?
Entre 1 et 1,5.
Ah ouais, quand même, c'est beaucoup.
Après, tout dépend aussi combien vous en prenez dans la journée.
Si vous prenez 6 cafés
dans la journée qui sont 6 fois sucrés, ça va faire au final des gros apports de sucre. Si c'est juste le matin, ça pose pas de problème.
Ah, c'est donc ça, le summer body qui n'est pas au rendez-vous, c'est peut-être le café que je prends.
Arrêtez le sucre, je pense que ça, c'est pas bon. Manger un fruit plutôt, il a dit, c'est ça qu'il faut faire. Vous disiez donc les protéines le matin, par exemple les œufs. Moi, j'aime bien les œufs brouillés, mais si je mange tous les matins des œufs brouillés, mon cholestérol, là aussi, ça va être une cata. C'est pas possible tous les jours les œufs, on est d'accord ?
Alors, je vais pas le conseiller tous les jours les œufs. Maintenant, il faut rester raisonnable aussi sur les quantités. On peut dire, par exemple, un jour sur deux des œufs, ça ne posera pas de problème. Si vous avez peur pour votre cholestérol, le fait de consommer des aliments qui sont riches en cholestérol en début de journée sera moins d'incidence que si vous les consommez en fin de journée.
On peut tout manger le matin, hein, les œufs, les rillettes, le pâté, il n'y a pas de problème. Si c'est le matin, il n'y a pas de problème pour la balance. D'accord.
Donc, il vaut mieux manger des aliments riches en cholestérol. Donc, on parlait des œufs, mais du fromage aussi, plutôt en début de journée.
Ok, très bien. Donc on retient les œufs, tout ce qui est gras, tout ça. Le matin, on peut y aller de bon cœur. Qu'est-ce qu'on boit ? Donc du café, il a dit, sans sucre, mais on peut boire autre chose. On boit quoi ? Du lait
On peut boire du lait, on peut boire un thé, on peut boire de l'eau tout simplement. On peut boire un jus de citron pressé aussi au réveil. C'est assez efficace pour avoir un petit effet détox au niveau du foie notamment.
Mm-hmm.
Donc on peut
un demi-citron
pressé
bio,
donc pour remplacer bio effectivement pour éviter les pesticides, c'est mieux que l'orange pressé que vous voulez prendre.
Donc on oublie le jus quand même, on peut boire un jus de fruit de temps en temps pour faire plaisir à Jimmy Mohamed quand même.
Il faut jamais rien interdire.
D'accord.
Voilà, donc une fois de temps en temps, pourquoi pas, si on dit tous les dimanches matin, votre plaisir c'est de vous presser votre jus de fruit parce que vous avez plus de temps, faites-le.
Merci beaucoup Raphaël Grumman. Ne bougez pas, dans un instant, rentrée des classes imminentes, on va quand même parler du petit déjeuner des enfants aussi et de ceux qui se lèvent le matin sans appétit du tout. Vous verrez qu'il y a des astuces pour réveiller vos papilles un peu plus vite au saut du lit. Restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le nutritionniste Raphaël Grumman. Alors avant de parler des enfants, comment on explique qu'il y ait autant de gens finalement, et même beaucoup d'enfants aussi d'ailleurs, qui n'aient pas faim au réveil? Moi je sais pas, je me dis qu'après quand même 10 heures ou 12 heures de jeûne, parce que c'est ça, la nuit on mange pas a priori, enfin il y a des gens qui se lèvent la nuit, moi ça m'arrive parfois, mais quand on n'a pas mangé pendant autant d'heures... Bah c'est bizarre quand même, pourquoi il y a autant de gens qui n'ont pas faim le matin?
Souvent aussi, c'est pas par habitude, déjà le fait de ne pas manger le matin, on va avoir cette habitude de ne pas avoir d'appétit. Deuxième chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est le stress, c'est-à-dire se réveiller dans le stress, c'est pas bon pour avoir de l'appétit. Si on se réveille 5 à 10 minutes plus tôt, parce qu'il ne faut pas avoir 45 minutes pour prendre un petit déjeuner, un petit déjeuner entre 10 et 15 minutes, on peut faire un petit déjeuner équilibré sans problème. Suffit juste de s'asseoir, c'est quand même mieux que de le manger debout. Donc en se réveillant 5 à 10 minutes plus tôt, ce qui n'amputera pas trop non plus votre nuit au niveau de votre sommeil.
Ouais, 10 minutes, ça va.
10 minutes, c'est raisonnable. Mmh. Sur une nuit de 7 heures, ça ne fait pas grand-chose en plus.
Psychologiquement, dormir 6h50, moi, je préfère 7 quand même. Mais bon, on va vous écouter.
Il faut se coucher 10 minutes plus tôt la veille.
C'est ça.
Mais au final, si on prend un peu plus de temps le matin... on va avoir un peu plus d'appétit, on va pouvoir se faire un petit déjeuner équilibré, mais vraiment 5-10 minutes, 10-15 minutes plus tôt, c'est vraiment l'idéal.
Et puis le matin, c'est la course avec les enfants aussi, donc on lève toute la famille 10 minutes plus tôt pour faire un petit déjeuner en famille.
Et
ça, c'est important de déjeuner tous ensemble, prendre un petit déjeuner tous ensemble.
Oui, parce que déjà, les enfants vont imiter ce que font les parents, donc si les parents ont pour habitude de prendre un petit déjeuner, ça sera beaucoup plus facile pour les enfants d'en prendre un.
Jimmy ?
On a compris qu'il fallait donc se lever un peu plus tôt, mais est-ce que vous avez d'autres astuces pour essayer d'ouvrir l'appétit, pour que ce soit pour les adultes, mais aussi pour les enfants ? Moi, je sais que mon fils a du mal à se mettre en route. Mm-hmm. Il lui faut 25-30 minutes avant de commencer à avoir faim, souvent au moment où on doit partir.
Ouais. À ce moment-là, vous le réveillez donc 5-10 minutes plus tôt, ça c'est OK.
Il va
vous
aimer donner... ça aussi, le petit bébé Jimmy Mohamed.
Il est aussi charmant que son père. Donc
c'est ça,
donc
il va être pas grognon en même.
Alors, vous lui proposez un petit verre d'eau dès le réveil, petit verre. Juste pour en fait ouvrir le système digestif. Ça va permettre donc du coup de...
C'est un leurre pour le système digestif.
Ça va permettre de réveiller le système digestif, d'avoir un tout petit peu d'eau, pas un trop grand verre parce que sinon ça va couper l'appétit aussi. Mm-hmm. De laisser se préparer tranquillement, de faire son sac, de se coiffer, de s'habiller, etc. Et avant de partir, de prendre le petit déjeuner. Donc déjà, ça va lui laisser effectivement ces 20 ou 30 minutes de préparation
dont il a besoin
pour se réveiller. Et là, il pourra prendre son petit déj juste avant le départ.
D'accord.
Ça, c'est une bonne idée pour les enfants.
Et pour les adultes, du coup, vous disiez le petit jus de citron, là,
Jus de citron pour les adultes, moins pour les enfants, parce que c'est un petit peu acide pour les enfants.
Tous les jours, le jus de citron, vous êtes sûr qu'on peut faire ça tous les jours? C'est pas trop acide, je sais pas, pour le pH là, de l'organisme ou un truc comme ça?
Il faut savoir que le soda à base de cola, pour pas citer de marque, est beaucoup plus acide qu'un jus de citron.
Ah bon?
Et vous le tolérez très bien quand vous en prenez.
Moi, j'en bois jamais, mais en tout cas,
ceux qui le consomment le tolèrent bien. Et donc, il faut savoir que le jus de citron est... moins acide
que le cola pour
le pH de l'estomac. Après, il faut le diluer avec un petit peu d'eau pour passer un peu l'acidité.
C'est pas évident, au réveil, un petit jus de citron comme ça, c'est acide. C'est
ouais,
quand
mais
pas
vous
très...
verrez que ouais. ça permet d'être un petit peu mieux réveillé et derrière d'avoir un système digestif plus performant.
Donc tous les jours, on peut faire ça?
Tous les jours, on peut se prendre un petit jus de citron.
Jimmy?
Exactement.
Et les enfants raffolent des céréales au chocolat, il y a plein de marques différentes. Ça passe très bien, mais on sait que c'est un peu trop sucré. Est-ce que ça reste malgré tout acceptable?
Alors, c'est vrai que ça sera beaucoup plus sucré que d'avoir une source de pain aux céréales. Pour les enfants, plutôt que le pain complet, ça passe déjà un peu mieux. Mais oui, les céréales seront un petit peu plus sucrées.
Les pains en graines, amusant pour eux, c'est ça,
un petit peu moins sec que le pain complet, un petit peu moins bourratif. Mais pour les céréales, c'est vrai que les industriels commencent à faire des efforts quand même en intégrant un petit peu plus de fibres qui vont permettre d'avoir un peu de satiété, parce que le problème des céréales au-delà du fait qu'il soit très sucré, c'est surtout qu'il ne cale pas. C'est-à-dire que vous prenez votre bol de céréales avec du lait.
Moi, c'est la seule chose que mon fils veut le matin, donc je continue à lui donner, on est d'accord.
Oui,
bah oui. Il mange ça que rien.
Il vaut mieux ça que rien.
D'accord.
Maintenant, j'ai peur qu'il ait faim à la récréation de 10 heures et qu'il reprenne.
Non, il est premier à la cantine, en fait, à midi, surtout.
Mais en fait, beaucoup d'enfants commencent à avoir faim un peu trop tôt par rapport à l'heure du déjeuner, et ça, c'est pas l'idéal.
Donc ça suffit pas le petit bol de céréales. Bon, vous dites qu'ils se sont améliorés, les industriels sont un peu moins sucrés.
C'est un peu mieux.
C'est tolérable, mais il faut donner quelque chose en plus encore du bol de céréales dans l'idéal.
On pourra avoir un fruit frais si l'enfant l'accepte bien. Si on le prépare, ce fruit, parce que si on lui donne une pomme à consommer comme ça le matin, en général, ça bloque un peu.
Ça fait beaucoup de boulot pour les parents.
Si on lui coupe la pomme en quartier, déjà, ça sera, vous verrez que ça sera déjà plus facile pour lui. Et si le fruit frais passe pas, on peut toujours donner une compote de fruits.
Et juste pour revenir aux céréales, maintenant, j'ai vu qu'ils mettent des labels bio, même dans les céréales sucrées. Est-ce que ça a un intérêt ?
Alors oui, en particulier dans les céréales. En fait, il faut savoir que donc, les pesticides qui sont bombardés sur les champs vont être déposés sur l'enveloppe de la céréale. Et quand on va prendre des céréales...
De l'avoine, du blé, etc.
Quand on va avoir ce pesticide sur l'enveloppe de la céréale, et qu'en plus on a des céréales qui sont riches en fibres, c'est-à-dire qu'on conserve l'enveloppe de la céréale, et ben on va récupérer tous les pesticides.
Les Kellogg's aux pesticides.
Donc
ça
du coup, il vaut mieux prendre des céréales bio qui contiendront donc pas de pesticides.
Donc c'est l'intérêt. Mais finalement, ça revient assez cher, non ? De prendre un petit déjeuner équilibré tous les matins, il faut compter combien ? Peut-être tout le monde ne peut pas se permettre de...
Ça coûtera moins cher que d'avoir un snack à 10 heures et de prendre une barre chocolatée qu'on aura pris au distributeur. Alors après, il y a prendre du pain le matin avec un petit peu de beurre et un petit peu de confiture.
Du chocolat pour les enfants, une barre de chocolat. Le matin, on peut tout manger. Hein, j'ai
plutôt chocolat noir, c'est mieux. Maintenant, si c'est chocolat au lait, ça passe très bien. Je peux vous dire que vous prenez une tranche de pain avec une barre de chocolat.
Moi, j'ai droit à ça le matin.
Vous pouvez, oui.
C'est pas que pour les enfants, le chocolat.
Non, c'est pour vous aussi,
d'accord.
Mais plutôt chocolat noir. Et c'est pas très onéreux comme petit déjeuner, une tranche de pain, une barre de chocolat noir, ou un petit peu de beurre et un petit peu de confiture. C'est un petit déjeuner qui reste accessible. Ça coûtera moins cher que des céréales pour le petit déjeuner, qui sont des produits industriels qui coûtent quand même... un certain prix.
Pour le pain, vous disiez surtout le pain complet. Bah alors, il faut encore avoir le temps quand même de sortir tous les matins, acheter le pain ou je ne sais pas comment on se fait livrer.
Vous faites beaucoup plus simple. Ouais. Vous achetez du pain que vous faites trancher
de
en boulant.
Le pain de mie, là, sinon, non ?
Alors,
ah non, ça, c'est pas bien.
Pain de mie, c'est un petit peu plus sucré dans sa composition, mais vous pouvez trouver aujourd'hui des pains de mie complets.
Comment je fais pour avoir du pain frais tous les jours ?
Vous l'achetez, vous le faites trancher en boulangerie et vous le congelez. Et chaque matin, vous toastez deux tranches de pain. Il y en a pour 20 secondes à toaster, parce qu'on a toujours la problématique temps.
Mais le temps, c'est important le matin, c'est
donc
vrai.
20 secondes à toaster le pain.
Il décongèle du coup en même temps qu'il grille. Quoi,
et voilà, et vous avez votre pain frais toasté tous les matins.
Ah, la suite, c'est intéressant. Donc on
et
achète
pas de perte, parce que du coup, le pain ne rassit pas. Et donc, vous en avez tous les matins votre pain frais.
Vous allez faire ça, Jimmy, j'espère. Hein. Acheter du pain, le congeler, tout ça, et le toaster tous les matins.
Évidemment,
je
suis toutes les recommandations.
Vous aviez une question.
Oui, on sait que faire du sport avant le petit déjeuner chez les adultes, ça peut rendre un peu plus performant et ça peut être bénéfique. En revanche, chez l'enfant, est-ce que ça peut être dangereux ? Un enfant qui ne prend pas son petit déjeuner parce qu'il n'a pas envie, il est de mauvaise humeur, on est très en retard, et qui a un cours d'EPS, est-ce qu'il risque quelque chose ?
Alors, il peut avoir une petite crise d'hypoglycémie. Donc, moi, je ne le conseille pas chez les enfants de faire une activité physique à jeun. Donc toujours avoir au moins une source de glucides, donc une source de sucre. Par exemple, une petite gourde de compote qui se transporte assez facilement et qui peut être prise juste avant l'effort. C'est quand même un peu mieux pour éviter d'avoir des étourdissements le matin.
Et la gourde de compote marche le matin aussi ? On peut lui donner ça ?
Oui. À défaut d'autre chose, oui, la gourde
de compote.
Au lieu
de lui couper la pomme, comme vous avez dit, nous obliger à la couper en petits morceaux.
Vaut mieux une compote. Voilà.
J'en ai toujours des compotes à la maison, donc ça on peut en donner, c'est bien. C'est
voilà,
mieux
donc sans sucre ajouté, on les trouve assez facilement aussi, les compotes sans sucre ajouté. C'est très bien le matin, c'est pratique. Il peut le faire aussi sur le chemin de l'école.
Mais pour les enfants aussi, c'est mieux quand même quand il y a de la mâche avec le fruit.
Toujours pour une question de satiété, plus vous allez avoir de la mâche le matin, donc si vous consommez un fruit frais entier, que vous allez mastiquer ce fruit, vous allez avoir plus de satiété que si vous prenez une compote.
Et lors des vacances ou lors du week-end, souvent les enfants se lèvent un peu plus tard. Est-ce que si l'enfant se lève, je ne sais pas, à 10h30, 11h, on doit lui donner le même petit déjeuner ou on doit se dire, oh là là, à midi, il va manger dans 1h30.
Moi, parce que c'est vacances,
je me dis, oh là là, si je lui donne un petit déjeuner, il va sauter le déjeuner. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ?
Alors on peut soit, s'il se lève vraiment très proche du déjeuner, complètement zapper le petit déjeuner dans ce cas-là, parce que ça ne sert à rien de multiplier les repas dans ce cas-là, ou alors de faire un plus petit déjeuner. De, par exemple, zapper le pain ou de faire effectivement un brunch, c'est-à-dire de tout regrouper sur un seul et même repas, soit donc d'avancer le déjeuner.
Vous aimez bien le principe du brunch ? Est-ce que nutritionnellement parlant, c'est intéressant ?
Ah, c'est très intéressant. Ça évite de multiplier les repas avec très peu de temps entre deux repas, entre celui du matin et celui du midi. Donc le brunch, c'est idéal le week-end.
Je reviens sur les enfants parce que c'est donc lundi, c'est la rentrée quand même. Hein. Vous disiez qu'il y avait environ 40% des enfants qui n'en prenaient pas. Mais on est d'accord, pour eux, c'est indispensable. Donc toutes les astuces dont vous avez parlé, il faut essayer de les mettre en place. Parce que concrètement, il va se passer quoi s'ils ne prennent pas leur petit déjeuner? C'est quoi le risque? Enfin, c'est d'être moins bon à l'école, moins attentif. Il y a des études qui montrent ça, il y a des preuves de ça, des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner avec, je ne sais pas.
Alors c'est plutôt les professeurs qui remarquent que les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner ont plus de difficultés de concentration. En fait, c'est tout simple, c'est que le cerveau a pour voie de réserve, en fait, son carburant, c'est le sucre, c'est les glucides. Il faut savoir que le cerveau consomme à peu près un cube de sucre à l'heure. Et sans ce carburant, le cerveau, il va être moins efficace. Donc les enfants vont être moins concentrés, vont avoir des difficultés de mémorisation, d'apprentissage, s'il n'y a pas de petit déjeuner.
D'accord. Et alors vous êtes nutritionniste, donc quand même, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser la question pour des questions des gens qui ont des problèmes de poids. Quand j'ai des kilos à perdre, quelques kilos, voire beaucoup de kilos à perdre, est-ce que là, du coup, ce que vous avez conseillé, les rillettes, le matin, etc., enfin, ces gens-là, ils ont le droit de prendre aussi un petit déjeuner ou là, vaut mieux le sauter, du coup?
Alors moi, je conseille toujours un petit déjeuner à mes patients, même quand ils veulent perdre du poids. C'est juste qu'on va adapter un petit peu le petit déjeuner en fonction du type de programme. Si on a, par exemple, un programme où on va se débarrasser des sucres pour faciliter une perte de poids, on ne va pas pouvoir mettre de pain le matin. Mais on peut conserver des aliments qui sont plus gras. Donc, si on voulait avoir des œufs, une omelette, par exemple, avec du fromage, une tranche de jambon ou de dinde et un laitage.
Ça a l'air sympa, le petit déjeuner au régime chez Raphaël Grumman. Moi, j'aime bien.
Ça reste un petit déjeuner qui est ultra rassasiant, qui permet de ne pas être frustré non plus. Parce que voilà, dire dans mon programme, dans mon régime, je peux consommer du fromage. Ça permet quand même d'égayer un petit peu le programme.
Merci beaucoup Raphaël Grumman alors pour tous ces conseils. Moi, je ne vais peut-être pas essayer les rillettes tout de suite le matin, mais on va peut-être essayer déjà le verre d'eau pour Jimmy, pour réveiller le système digestif, ou le demi-citron, demi-jus de citron pressé. Ça ouvre l'appétit le matin, vous nous avez expliqué. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Dans un instant, on va s'intéresser aux bobos du quotidien et aujourd'hui, on va parler des ongles incarnés. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour dans votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des ongles incarnés. Et justement, Caroline Baudry a été vous donner la parole. Que faites-vous pour les soigner, pour les éviter, pour prendre soin de vos ongles de pied? On écoute son micro-trottoir.
Dès que je marche, en fait, c'est une douleur atroce. Et donc, je boitais. Ma mère m'a dit aussi que c'est un peu génétique, puisque mon père en a eu tellement de fois.
Il avait poussé en dessous, sous la peau. Ça avait créé une infection, en fait. J'étais dans un pays chaud et humide, et du coup, je pense que ça a joué.
J'enlève les saletés de sous mes ongles charmants, juste histoire d'aérer tout ça et de prévenir plutôt que de guérir, je pense.
Eh bien, il faut une demi-pointure ou une pointure en plus. Quand on a les chaussures un peu courtes, que les ongles poussent et qu'on les coupe pas, ils ont tendance à se recroqueviller.
J'ai un ami qui en a eu un, et dans les vestiaires, il est complètement dingue. Il dit, tu sais que tu peux en mourir, faire super attention, fais gaffe à ça, un ongle incarné, c'est pas anodin.
Je fais une petite séance pédicure chez moi, c'est-à-dire je mets de l'eau dans un petit bac, je prends mes pieds, et après je prends un coupe-ongle et je taille mes ongles, en gros, pour éviter que ça pousse en désordre, j'ai envie de dire.
Alors d'abord Jimmy, on est d'accord, les ongles incarnés, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, on peut pas en mourir quand même. Hein
non, alors quoique, je suis sûr que si vous tapez vos symptômes sur Google, le docteur Google vous dira que vous risquez de mourir.
Allez,
mais non, on va quand même survivre avec un ongle incarné.
Bon, après, si l'infection effectivement le dégénère et qu'on reste avec un pied plein d'infections, tout bleu, crée de nécrosé.
Oui, imaginez quand même sur votre tombe, mort d'un ongle...
là.
Oui, mais imaginez mort d'un ongle incarné, c'est quand même pas très glorieux.
Alors c'est quoi justement un ongle incarné? Ça touche plutôt les ongles de pied quand même, on est d'accord?
Essentiellement, et plutôt les adultes, un peu moins les enfants, ça consiste à ce que l'ongle pousse à l'intérieur de la peau. Plutôt le gros orteil, plutôt sur le côté. Et finalement, il pousse dans la peau au lieu de pousser à l'extérieur, créant de l'inflammation et créant donc de la douleur.
Sur l'extrémité donc qui est latérale de l'ongle, hein, c'est ça le côté?
Exactement.
Parce qu'on ne voit pas d'image là, mais l'extrémité latérale de l'ongle, elle va rentrer dans les tissus,
exactement,
dans la peau, c'est ça.
Et c'est responsable de la douleur, douleur qu'il ne faut pas traiter par le mépris. Bien souvent, on a mal au pied, on se dit bon on va patienter, et c'est là que les choses vont se compliquer. Donc dès lors qu'on a une douleur, on consulte.
J'allais vous dire, en dehors de la douleur, les autres signes de l'ongle incarné, c'est quoi? Est-ce qu'on voit quelque chose visuellement très tôt? Parce que bon, finalement, quand on a déjà eu un ongle incarné, moi ça m'est déjà arrivé, on s'en rend compte, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut alerter au départ?
Il y a un petit bourrelet inflammatoire. Lorsque l'ongle pénètre dans la peau, de l'inflammation l'inflammation se crée dans le tissu car il considère que c'est un corps étranger. Et donc, il y a de l'inflammation, c'est rouge, c'est chaud, c'est gonflé. Et là, à ce moment-là, il faut tremper les pieds dans l'eau pour ramollir un peu tout ça et essayer de couper l'ongle. Car le problème de l'ongle incarné, c'est une mauvaise pousse de l'ongle. Donc, il faut essayer de le couper.
Une mauvaise pousse parce qu'on l'a mal coupé, quoi. C'est ça, en fait. Souvent, c'est des mauvaises habitudes de je ne sais pas comment on appelle ça, la taille des ongles, le coupage.
Oui, la taille des ongles, le coupage, la taille des ongles, ça me va, on l'aura compris. C'est effectivement, on veut couper les ongles de façon arrondie. Ouais. Or, il ne faut pas. Mais on ne devrait pas. Ouais. Certains n'ont aucun problème, mais l'ongle incarné, le problème, c'est ça. Donc, il faut couper l'ongle de façon plutôt horizontale.
Carré, quoi.
Exactement, carré. Donc, le coupe-ongle marche un peu mieux que le ciseau. On va avoir tendance à suivre les bords un peu
avec
comme.
Avec le ciseau, on va dans les coins.
Exactement.
C'est ça.
Or, avec le coupe-ongle, c'est plus droit et donc plus net.
Et donc là, on vous parlait du petit bourrelet rouge, un petit peu chaud, qui va commencer à faire mal dans les chaussures, par exemple. Vous dites de faire tremper dans l'eau chaude pour mieux couper. Mais tout de suite, c'est pas infecté. Enfin, ça va pas s'infecter. Tout ça met combien de temps à s'infecter, justement?
C'est aléatoire. J'ai vu, notamment chez des enfants, une infection flambée en 24 heures. Et donc, au bout de 24 heures, une fois qu'on a traité par le mépris, on se dit, c'est pas très grave. Mm-hmm. Le bourrelet se transforme en petit abcès, donc un équivalent de panari. Et là, c'est trop tard, on est obligé de consulter. En revanche, si vous êtes à l'étranger, si vous êtes coincé, si vous n'avez pas de médecin, c'est pas la peine d'aller aux urgences. Mm-hmm. Vous pouvez commencer par faire
s'il y a du pus partout et que c'est infecté quand même.
Alors, s'il y a du pus partout, oui. Mais vous pouvez commencer par faire des bains de pieds avec du daquin, de l'exomédine.
Il y a un truc un peu désinfectant. Quoi.
6 fois par jour, par exemple, du daquin.
6 fois,
oui, 6 fois
fou,
par
quoi.
Jour, 10 minutes, 6 fois par jour. En diluant du daquin.
J'amène mon daquin et ma petite bassine
au
travail.
Ça vous évite peut-être d'aller aux urgences et peut-être de vous faire opérer.
6 fois, c'est
vous
énorme.
Vous commencez comme ça, 10 minutes à chaque fois, vous trempez les pieds et puis ça peut réduire l'inflammation.
Tout seul, comme ça, juste ça.
Et ça peut régresser et ça peut vous éviter de passer par la case chirurgie.
Vous parliez de couper les ongles donc plutôt de forme carrée et pas donc en rond avec un ciseau. Mais du coup, il ne faut pas les couper trop courts en fait non plus parce qu'on les coupe régulièrement pour des questions d'hygiène et d'esthétique. Mais parce que les ongles de pied très longs, ce n'est pas quand même le truc le plus joli. Mais
c'est pas très glamour.
Voilà, mais on laisse quoi quelques millimètres. Il faut laisser un peu plus que ce qu'on pas à ras, quoi, c'est ça ?
Exactement. À ras, ça favorise la mauvaise pousse. Et donc, à partir de ce moment-là, l'ongle incarné risque de venir plus rapidement. En revanche, si vous ne savez pas trop ou si vous avez un début, c'est d'aller voir un pédicure. Lui, c'est le spécialiste des pieds. Et j'avertis les patients qui sont notamment diabétiques, qui ont un risque d'infection bien plus important, d'aller régulièrement chez le pédicure pour prendre soin de leurs pieds et puis pour débuter un traitement lorsqu'on a un ongle incarné pour éviter justement d'arriver vers l'abcès.
Bon, mais parfois, par contre, vous avez dit, ça peut dégénérer. Donc, vous nous avez donné toutes ces astuces de bain de pied 6 fois par jour. Alors, ça, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais bon, admettons 6 fois par jour, oui.
Non, mais vous rigolez. Je vous raconte l'histoire d'un bébé que j'ai vu de 3 jours, qui avait un ongle incarné, en fait. Il est sorti de la maternité.
À la naissance.
Dès la naissance. Une mauvaise pousse de l'ongle, et il s'est transformé en panari. Donc, il y avait du pus. Le chirurgien orthopédique a recommandé de faire des bains de pied 6 fois par jour, et puis de le revoir dans 48 heures. Et bien, au bout de 24 heures, plus de panaré au niveau du pied.
Juste avec des bains de
daquin, 6 fois par jour, 10 minutes, dilué à 50%. Donc
on
met 50% d'eau.
On touche pas l'ongle du bébé là.
Non, on le laisse tranquille parce que ça va lui faire mal. Donc c'est pas le moment d'y toucher. Et donc on peut diminuer l'inflammation. Et souvent les gens ne savent pas quoi faire. On met un petit peu d'antiseptique avec une compresse. Mmh. Ça ne suffit pas. Faites des bains de pied avec un antiseptique. Vous verrez, on peut peut-être essayer de passer par autre chose que la case urgence ou chirurgie.
On l'a dit, donc c'est souvent un problème de coupe des ongles, mais justement, est-ce qu'on peut aller voir juste un pédicure en fait ou un podologue juste pour lui dire, apprenez-moi un peu à me couper les ongles, parce que parfois on croit qu'on fait bien, mais finalement ça c'est un truc, ça doit se montrer au moins une fois. Ça vaut le coup d'aller voir un pédicure.
Évidemment, quand on a des problèmes de tension, on va voir le cardiologue. Lorsqu'on a des problèmes de ventre, on va voir le gastro-entérologue. Et ben les problèmes de pied, c'est le pédicure.
C'est pas un médecin, mais c'est un professionnel
de
santé.
Non, c'est un professionnel de santé qui déjà fera un diagnostic au niveau de vos pieds et pas simplement au niveau des ongles. Il pourra vérifier l'état d'hydratation de la voûte plantaire.
Valus,
exactement. Voilà. Vérifiez que vous n'avez pas de mycose, parce que parfois on a des petites mycoses sans s'en rendre compte. Il vous expliquera comment bien sécher vos pieds lorsque vous êtes notamment diabétique. Et puis, il pourra traiter, si besoin, un début d'ongle incarné pour éviter que ça se transforme en abcès.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle sexualité avec des sujets qui nous intéressent tous, même si on n'en parle pas toujours, ni avec sa famille, ni avec ses amis. Aujourd'hui, on va parler de la première fois, du premier rapport sexuel. Et je commence donc avec cette question d'Isabelle. Isabelle, qui est maman d'une jeune fille de 16
16 ans. Catherine, je vous lis sa question. Donc bonjour, j'ai une fille de 16 ans, elle est en couple avec son copain que j'aime bien d'ailleurs depuis 5 mois. Je sens bien qu'ils ne vont pas tarder à avoir des relations sexuelles, mais j'ai juste un peu peur, un peu de mal à aborder la question avec ma fille. Je voudrais juste être sûre que ce soit un beau souvenir pour elle. Ma première fois a été tellement catastrophique. Bon Catherine, je crois que la base c'est peut-être de ne pas comparer de toute façon sa fille à elle. Je ne sais pas, c'est peut-être une première erreur.
C'est ça, la sexualité d'Isabelle est celle d'Isabelle et sa fille n'a pas à réparer la sexualité de sa maman.
En revanche, qu'elle s'inquiète pour sa fille, qu'elle ça se passe bien, qu'elle la conseille, ça on peut se poser la question quand on a une adolescente ou un adolescent.
Oui, mais le terme de s'inquiéter, c'est poser déjà le cadre qu'il y a matière à inquiétude. Il y a peut-être questionnement ou pas, il faut être là au rendez-vous pour son enfant pour dire si tu as des questions... N'hésite pas, je suis là. Mais si l'enfant ne pose pas de questions, et que là, alors qu'il y a une fluidité d'échanges, c'est qu'il a besoin de s'approprier sa sexualité. La sexualité, c'est ce qui nous éloigne le plus sûrement de nos parents. Et c'est heureux, parce que sinon, on aurait le sentiment d'être en quelque chose d'extrêmement incestuel, hein, un mélange des genres.
Et Isabelle, elle ne raconte pas sa première fois à sa fille, on est d'accord, non plus.
Ah ben non, parce que celle-là, c'est pour le coup, effectivement...
Si elle est catastrophique, en plus. Ouais.
C'est ça. Et puis, en plus, ça raconte le début d'une personne, ce qu'elle en a fait, ce qu'elle est encore en train de penser. Donc ça met une pression énorme à la fille qui doit et la réparer, qui doit penser que cette première fois, elle ne l'oubliera jamais et qu'à ce titre, ça la polluera éventuellement tout le
Quelle
temps.
Pression, oui.
Non, vous savez, quand on a commencé à marcher, je pense que nous trois qui sommes dans ce studio, on a marché puis on est tombé. Est-ce qu'on s'est dit, oulala, je ne vais plus me redresser sur mes pattes parce que je vais tomber, je vais me faire de mal et puis ça fera des bobos et puis j'aurai du mercurochrome et puis j'aurai des gros pansements et puis quand ça va cicatriser, ça va tirer, ça va faire mal. Non, on remarche, on court, on saute, on dévale les escaliers avec assurance et tranquillité.
Pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance à la première fois? Parce que, je sais pas, quand on fait du vélo, par exemple, la première fois, on n'est pas très bon. Et puis moi, par exemple, je me suis amélioré avec le temps en vélo, je fais de mieux en mieux.
Donc et la sexualité, c'est pareil, on s'améliore avec le temps.
C'est la même chose, mais pourquoi est-ce qu'on garde cette première fois en tête?
Parce qu'on a
c'est souvent mieux la deuxième, d'ailleurs, hein, je crois.
Oui, mais d'ailleurs, la première fois... Dans le meilleur des cas, il ne se passe pas grand-chose.
C'est ça. Hein,
parce que c'est justement, on se dit, ouais, on y est arrivé, ça marche, on ne s'est pas fait mal, j'ai pas fait mal, j'ai rien ressenti, mais cool, tout va bien, ou j'ai ressenti, d'accord, mais en fait, finalement, tout va progresser au fur et à mesure. Mais cette première fois, il y a tellement un poids religieux, moral, il y a une idée que c'est une preuve d'amour, il y a une idée que c'est aussi un passage de l'enfance à l'adulte. Donc c'est vraiment, on n'est pas dans une société aujourd'hui où on part chasser seul dans la savane et on doit revenir avec la bête sur le dos pour prouver qu'on est devenu un homme. Tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre du rituel initiatique. Donc c'est chargé de beaucoup de choses et de preuves à faire quant à une capacité. Et un enfant, ben justement, il doit se prouver qu'il devient un adulte. Et du coup, c'est pour ça que je disais que la première fois est souvent... Finalement, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'on peut avoir juste le sentiment de dire qu'on est arrivé à vaincre sa peur. Et c'est ça le miracle de cette première fois. Pas nécessairement arriver à faire toutes les positions du Kama Sutra, les jouissances, les orgasmes, etc. Ne vous inquiétez pas, tout va bien.
Juste une question pour répondre quand même à cette maman. Il y a quand même au moins une chose qu'il faut aborder avec son enfant quand on sent que ça va arriver, c'est au moins les préservatifs, la contraception, etc. Ça, elle doit lui en parler à sa fille, cette fille qu'elle sent avoir bientôt un rapport sexuel.
Oui, mais ça ne doit pas être l'axe unique. Malheureusement, aujourd'hui, l'éducation à la sexualité, y compris dans les collèges, est toujours autour des dangers, des risques. Mmh. Ce qui est une réalité. Il n'est pas question de bannir la possibilité de bébé, donc de contraceptif, la possibilité de maladies, évidemment, et puis aussi du consentement personnel. Bien évidemment que ce sont des questions importantes. Mais on ne peut pas réduire la sexualité à ça puisqu'on nourrit la peur. Donc on est obligé de dire que c'est merveilleux la sexualité, à condition que ce soit mon choix, à condition que ce soit pour des conséquences qui sont celles que je choisis également. Je choisis de faire un bébé ou je choisis pas de faire un bébé. Je veux continuer ma vie dans la tranquillité sans peur aucune, donc je me protège et j'aide mon corps à être en sauvegarde. Mais pas mettre essentiellement l'accent sur la dangerosité de la sexualité. Parce que là, on est contre-productif en réalité.
Jimmy ?
Et si la première fois se passe mal ou très mal, est-ce que ça laisse présager des rapports compliqués par la suite? Ou finalement, il faut oublier et puis te dire, bon bah, c'était une expérience mauvaise, on va s'améliorer?
Tout dépend de ce qu'est le très mal. Hein. Si c'est un viol, c'est pas la même chose que si j'ai été un peu nulle, que j'ai rien ressenti ou que j'ai été maladroit ou maladroite. C'est vraiment, les choses ne sont pas pareilles. Mais encore une fois, l'oubli, quand c'est très violent, quand c'est très douloureux, n'est pas une chose aisée. D'ailleurs, l'oubli souvent fait un boomerang plus tard qui est compliqué. Donc, je crois que plutôt le face-à-face avec la réalité est plus intéressant que l'oubli. C'est « je vais apprendre de mon erreur » ou de mon erreur de comportement ou de ma maladresse. Et c'est ce qui va me permettre de progresser. D'ailleurs, c'est ce que les Américains disent beaucoup dans le cadre du travail. Échoue souvent. Parce que plus j'échoue, plus j'étudie la raison de mon échec, plus je vais pouvoir grandir. Donc, je ne crois pas qu'il faille oublier. Il faut simplement se dire « ah, la prochaine fois, il faudra que je dise ça, il faudra que je fasse ça, il faudra que j'ose ça. » Et puis, petit à petit, on met du ludique dans le rapport à l'autre.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi, vous Jimmy Mohamed, pour votre nouveau magazine Santé sans rendez-vous. C'est tous les jours de 15h à 16h. Restez sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.